Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Veuillez à penser à éteindre vos téléphones portables. Je le dis pas tout le temps, mais comme on en a entendu un au début de la séance, merci d'y penser. Je vous souhaite la bienvenue au Centre Pompidou pour ce nouveau débat que nous organisons en partenariat avec les éditions de l'EHESS, notamment pour la parution à venir. Hélas, il n'est pas encore disponible, mais il sera disponible à partir de septembre. Vous avez des petites brochures pour le présenter. Le scandale de la pensée sociale à propos de la pensée justement de Serge Moscovici, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Le titre du débat de ce soir est stimulant, intéressant. Peut-on encore rêver dans un monde prisonnier du réel ? Et je vais donc bientôt passer la parole à Bruno Ambroise, qui va animer le débat de ce soir, que la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous présenter. Bruno Ambroise est chargé de recherche au CNRS et chercheur en philosophie du langage à l'Université de Picardie. Il s'intéresse à beaucoup de thématiques autour de la langue, du discours, de la parole, aussi bien dans la sociolinguistique, l'anthropologie linguistique, mais je préfère pas dire de bêtises, donc je vais lui laisser assez vite la parole sur les champs disciplinaires eux-mêmes. Et il vient notamment de publier également aux éditions de l'EHESS, sous sa direction et celle de Christiane Chauviret, un ouvrage qui s'appelle « Le mental et le social ». Qui vient de paraître. Donc je vous invite à prendre les brochures qui sont à l'entrée de la salle et je lui laisse donc la parole pour ce débat. Bonne soirée.
Bien, merci. Et merci encore d'être venu. Donc vous aurez compris que ce soir nous sommes réunis pour parler du livre de Serge Moscovici qui est à ma droite, qui s'appelle « Le scandale de la pensée sociale ». Je rappelle rapidement, on va revenir sur son parcours, que Serge Moscovici est directeur d'études de l'EHESS et fondateur du laboratoire européen de psychologie sociale à la Maison des sciences de l'homme. Et il est surtout connu pour être le théoricien de la théorie des représentations sociales. Et à ma gauche se trouve l'éditeur du livre, Nikos Kalampalakis, qui est actuellement professeur de psychologie sociale à l'Institut de psychologie de l'Université Lyon 2 et membre et directeur du laboratoire GREPS, groupe de recherche en psychologie sociale. Donc, comme je vous l'ai annoncé, c'est surtout autour du livre de Le scandale de la pensée sociale que va se concentrer cette séance, sachant que ce livre réunit en fait plusieurs textes importants et inédits en français de Serge Moscovici. Et on peut dire que ces textes résument en quelque sorte sa théorie, son épistémologie, et on peut dire certains résultats de celle-ci. Alors, c'est un livre vraiment à la fois très dense, puisque beaucoup de choses sont explicitées dans ces pages, et en même temps incroyablement clair en ce que Serge Moscovici prend toujours la peine de définir ce dont il parle et d'utiliser un langage à la fois précis et accessible, et c'est suffisamment rare pour être noté, et donc je vous invite tout à fait à lire le livre quand il sortira. Donc, à ceux qui le liront, le livre apparaîtra ainsi d'une incroyable richesse que nous allons seulement essayer d'approcher aujourd'hui pendant une heure dix, avant de vous laisser la parole, et avant de rentrer dans le vif du débat, peut-être convient-il déjà de présenter rapidement Serge Moscovici lui-même, son parcours, son œuvre, la façon dont vous en êtes venu à construire votre œuvre. Donc je vous laisse la parole, si vous voulez présenter rapidement la façon dont vous... Pas votre vie, mais comment vous avez pu construire cette théorie, comment vous en êtes venu à construire cette théorie des représentations sociales.
D'abord, il n'y avait pas de psychologie sociale quand j'ai commencé à construire, comme vous dites, parce que bon, c'était le début de la discipline en France et en Europe. Et d'abord, je me suis fixé comme problème, et je pensais que ce sera un problème important, et puis c'était lié aussi un peu à la guerre, c'est la transformation. Je pensais que ce problème de la transformation du savoir culte en savoir inculte, si on peut dire, hein, ça sera le problème le plus important d'après la guerre. Deuxième point, c'était la rencontre avec Lagache, qui était à la fois le créateur de l'enseignement de psychologie et psychanalyste. Et c'est certainement, il ne me l'a pas demandé de le faire, mais il a influencé sur moi pour prendre la psychanalyse comme théorie scientifique, entre guillemets, qui pénétrait dans la société à ce moment-là. Disons que c'était une atmosphère beaucoup plus politique, elle est beaucoup plus idéologisée qu'aujourd'hui, puisque vous aviez le marxisme, etc. Alors, d'abord, j'ai échoué, c'est-à-dire que finalement, j'ai travaillé, comme tout le monde, sur les attitudes, sur les opinions, etc. Et ça, ce n'était pas vraiment très intéressant, je pense. Et d'autre part, je crois que la psychologie sociale, malheureusement, ne s'est pas intéressée aux problèmes cognitifs de manière profonde, si je puis dire. Alors, il y a, disons, une transposition de ce qu'on fait dans la psychologie, sociale, mais la psychologie sociale n'a pas une démarche qui lui est propre, bien qu'elle existât. Enfin, je ne vais pas faire maintenant de l'histoire. Donc, après cette première série de travaux que j'ai fait sur les attitudes, les choses de ce genre, d'études plus cognitives qu'on dirait aujourd'hui, ben je me suis arrêté parce que je voyais qu'il y avait un très grand écart entre ce qui m'intéressait et le terrain sur lequel je travaillais et ses méthodes. Et je pense que même aujourd'hui, c'est le problème. Il y a un écart. Est-ce que vraiment le social est présenté dans cette forme de travail cognitif qu'on fait en étudiant en supposant qu'on étudie le cerveau ou des choses de fonctionnement psychologique, etc., ou non? Alors, je rentre là dans la deuxième chose. Une chose importante, je pensais que la psychologie sociale doit être plus sociologique qu'elle l'était. Donc, je me suis intéressé à la sociologie. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de Durkheim, mais à ce moment-là, c'était vraiment jusque dans les années 50. Durkheim n'était pas plus connu que Meyerson, ou enfin mieux connu, mais tout le centre a disparu pendant la guerre, etc. Alors, je me suis intéressé du point de vue de la représentation sociale, ça c'est le premier concept. Mais la représentation sociale, de l'étudier à partir de l'individu, de discours, etc., est-ce qu'on peut vraiment appliquer les notions que nous avons de la pensée en psychologie en général à la psychologie sociale? Alors, de fil en aiguille, je dois ajouter que j'ai toujours pratiqué l'histoire des sciences, si j'ai connu. Et donc, ça a eu une importance pour moi, parce que c'est dans l'histoire de la science que j'ai trouvé cette notion de sens commun. Deuxième chose, c'est que finalement, quand on regarde les sciences, les sciences sociales, il y a un problème pour devenir science, il faut éliminer quelque chose. Ce n'est pas, par exemple, la psychologie sociale et psychologie sans quelque chose. Durkheim voyait aussi la sociologie comme une sorte de science, mais sans rien qui appartiennent au sens commun. Et je suis donc là, j'ai pris contact avec le sens commun. les sciences et sens commun, vous le trouvez dans tous les, chez tous les philosophes d'histoire des sciences, surtout en France. Il y avait Meyerson, il y avait Bachelard. Alors, c'est là que je me suis... enfin, j'ai cherché un concept qui permettrait d'étudier la représentation sociale et le social en même temps. Pas le social et l'individu. Donc, si on considère le sens commun comme un concept, à ce moment-là, il est vraiment le soubassement de toute la connaissance, de toute la pensée sociale. Bon, je passe ici parce que c'est très difficile de... ce qui était extraordinairement important, c'est que finalement, ce concept de sens commun était assez fondamental dans toute la philosophie. J'ai découvert que Auguste Comte, tout le monde a écrit sur le sens, sens commun. Et donc, j'ai essayé à ce moment-là d'élaborer une sorte de théorie du sens commun ou définition du sens commun et associer le sens commun aux représentations. Maintenant, je vous raconte tout ça, mais il faut bien voir que il y a là une sorte de difficulté, c'est que toutes les sciences sociales sont définies comme élimination du sens commun. Si vous prenez le livre fondamental de Durkheim sur la méthodologie, la méthodologie de la sociologie consiste dans l'élimination de tout ce qui est lié au sens commun, de tout ce qui est lié à la couleur, à la saveur, etc. Deuxièmement, le sens commun, si on regarde historiquement, représente aussi une division de la société. C'est-à-dire les divisions dans la société, je peux vous citer, mais les divisions de la société en couches informées, cultes, et couches non informées, incultes. Et le théoricien de cette vision, de ce concept, c'était quand même Platon. Alors j'ai apporté, mais je ne vais pas le faire maintenant, Einstein aussi, et Einstein cite Platon sur ce. Donc je reviens à la représentation sociale. À ce moment-là, j'étudie la représentation sociale comme la transformation d'une théorie culte en théorie inculte, qui présuppose une grande créativité, parce que le sens commun est une chose extrêmement durable. Et on en a écrit beaucoup sur le rapport entre la science, la vie quotidienne. Il y a beaucoup de livres, dont le livre de comment il s'appelle ? C'est un auteur allemand qui était un peu élève de Heidegger ou ami de Heidegger. Oh bon, je n'ai pas de... Alors donc, la biographie de l'histoire du sens commun est énorme. Donc je n'ai pas vraiment tout lu, mais j'ai trouvé aussi dans la science sociale française beaucoup de réflexions là-dessus. Alors, c'est là où j'ai essayé de rapprocher le sens commun et les représentations sociales. Je sais pas si...
Merci. Donc, vous avez effectivement présenté très rapidement un peu l'ensemble de ce que vous avez essayé de montrer. On va essayer de voir ça plus en détail au cours de l'heure qui suit. Mais par ailleurs, cette pensée s'est développée par étapes. Et peut-être qu'on peut rappeler quelques ouvrages marquants de Serge Moscovici avant de rentrer dans la théorie.
Oui, bien sûr, on peut rappeler déjà deux personnes clés, en tout cas dans son parcours. Il a commencé déjà à les citer. Daniel Lagache pour la psychologie, c'était un des premiers licenciés de psychologie de la Sorbonne en 49. Mais aussi Alexandre Coiré pour l'histoire des sciences, donc un double parcours parallèle. D'un côté la psychologie sociale, la thèse sur la psychanalyse, et en 61, année de la soutenance de cette thèse d'État, année de la sortie de la première version de la psychanalyse, son image et son public aux presses universitaires de France, la sortie en parallèle, enfin le diplôme aussi en parallèle en histoire des sciences, avec Coiré. Donc ça, c'est les deux piliers sans doute fondateurs et qui ont une influence assez... permanente en tout cas dans sa pensée, mais après à l'intérieur de l'histoire des sciences on peut trouver plein de pistes, et bien sûr à l'intérieur de la psychologie sociale aussi. On peut citer aussi la troisième main, disent certains, de Serge Moscovici, c'est-à-dire son œuvre aussi sur la nature, l'écologie politique. Et tout d'abord c'est une interrogation autour de la nature. Donc une œuvre polymorphe, ces trois volets peuvent essentiellement donner une forme de structuration un tout petit peu et de compréhension éventuellement à ceux qui ne la connaissent pas. Après, du point de vue de l'histoire aussi institutionnelle, c'est des institutions, mais on en reparlera, notamment l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, doublement ravi aussi que les éditions de l'EHESS ont accueilli dans leur collection cet ouvrage, mais aussi une carrière de Serge Moscovici en dehors de la France, en dehors de l'Europe, aux États-Unis, à la New School for Social Research, au moins à partir des années 80 et avant Stanford et Princeton, davantage en tant qu'historien des sciences, là, pour le coup, en tant que fellow. Donc, sur les ouvrages, la tâche est compliquée parce que les ouvrages sont extrêmement, extrêmement nombreux. Alors, la psychanalyse, son image et son public, c'est vrai que c'est l'ouvrage phare, c'est l'ouvrage qui a été traduit dans énormément de langues dans le monde, y compris en anglais il y a peu. C'était une blague entre nous, mais c'est vrai que c'est l'anglais, ça restait un territoire, en tout cas de traduction, qui manquait. Ça a été fait il y a quelques années. En ce qui concerne la psychologie sociale, je pense que ça vaut la peine de noter quelque chose que la plupart des gens ne connaissent pas, à savoir qu'en 1961, il y a la soutenance de la thèse d'État, il y a la sortie parallèle du livre aux presses universitaires de France, la version de 61, qui est la version la plus volumineuse. Et au même moment, en 1961 aussi, aux éditions cette fois-ci d'Armand Collin, nous avons également la publication de la seconde thèse de Serge Moscovici, qu'à la rigueur on pourrait qualifier sans trop de risque un peu plus appliqué, parce qu'il y avait des terrains davantage, en tout cas, impliquant le chercheur, qui s'intitulait « Reconversions industrielles et changements sociaux ». C'est ce qu'on retrouve énormément aujourd'hui dans les interrogations autour des politiques publiques, autour de la reconversion industrielle d'endroits qui connaissent maintenant le chômage, fermeture d'usines, etc. C'était exactement le cas traité à travers cette seconde thèse. L'essai sur l'histoire humaine de la nature me semble être un passage incontournable pour celles qui souhaitent connaître la pensée de Moscovici autour de la nature, et l'ouvrage « La société contre nature » qui était un ouvrage assez polémique, assez, je me permets de dire militant, mais vous me corrigerez éventuellement. Et ensuite, sur la psychologie sociale, si je peux revenir, certainement L'âge des foules, hein, qui est un ouvrage au début des années 80, qui a été énormément traduit aussi dans le monde, et qui est une interrogation sur une des premières formes, en fait, de psychologie collective, qui est la psychologie des foules. La machine à faire des dieux, 1988, la première édition, sur les rapports entre sociologie et psychologie. Et je pense que l'ouvrage dont on parle aujourd'hui, Le scandale de la pensée sociale, est imprégné en tout cas de cette articulation-là entre sociologie et psychologie. Nous en reviendrons. Il y a eu un ouvrage autobiographique, Chronique des années égarées, un récit autobiographique, qui permet, je pense, de mettre en parallèle la trajectoire d'un homme aussi dans le XXe siècle, un siècle extrêmement chargé du point de vue aussi de la géographie, en tout cas de la trajectoire de Serge Moscovici. Et ensuite, de nombreux ouvrages, y compris cette année, il y en a deux, il y a celui-là, il y a un ouvrage sous sa direction également qui est sorti en anglais. Je peux également me permettre de citer un ouvrage commun en 2006 avec Ivana Markova autour de la manière dont la psychologie sociale a été fabriquée. Donc, qui est un récit aussi de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, on a l'historien des sciences d'un côté et l'auteur, si j'ose dire, l'acteur plutôt de cette histoire-là, qui essaie de montrer, de raconter comment cette histoire-là a été faite. Voilà. Et comment les institutions, les personnes, les groupes, les collectifs se sont impliqués. Donc là, je ne parle que d'un certain nombre de livres. Sinon, la bibliographie de Serge Moscovici est assez monumentale. On avait essayé de tout collecter dans les mélanges en son honneur au début des années 2000. La tâche continue étant donné sa production depuis.
Alors, Serge Moscovici est l'auteur d'une théorie véritablement inédite des représentations sociales qui s'abreuve, vous l'avez mentionné, à la fois à Durkheim, à Lévi-Brull, que vous mentionnez souvent, mais aussi bien sûr à des psychologues. Vous citez notamment Piaget ou Vygotsky. Mais ce qui peut surprendre actuellement, c'est que finalement, vous défendez l'idée que la psychologie est une science sociale. Et vous tenez à inscrire la psychologie dans les sciences sociales et avec toute la méthode qui serait propre aux sciences sociales. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce point, qui est un point méthodologique et presque épistémologique, sur le statut même de la discipline que vous défendez ?
Je trouve qu'il n'y a pas un lien relativement clair et constant entre la psychologie et la psychologie sociale et la psychologie. Je ne pense pas qu'on pourra faire une théorie psychosociale qui n'ait pas un rapport avec une théorie du social. Donc ça c'est une des raisons. Dès le départ, si vous voulez faire c'est comme ça que je l'ai vu, mais ça correspond aussi à une expérience, ça correspond à un certain nombre de travers qu'on a. Moi j'ai pensé la psychologie sociale comme une sorte de science qui est liée au social, hein, plus qu'au psychologique à la limite. Je regrette que je n'ai pas lu un certain nombre de choses parce qu'il y a eu, dans l'école de Durkheim, avec une sorte d'essai de faire une psychologie sociale. Parce qu'on pourrait dire que Durkheim est pas mal psychosociologue. Mais enfin, donc c'est ça. Je n'ai pas vu dans la psychologie sociale ce continuum entre le social et le psychologique. En fait, on étudie souvent des miroirs individuels puis il y a une autre chose la psychologie sociale, que ce soit, je n'ai pas à dire, ce n'est pas une critique, mais c'est un fait, puisque j'ai quand même connu de près, si on peut dire, le développement de cette science. Il y a une sorte de préoccupation qui est la préoccupation avec l'exact, le précis. Et comme les Italiens disent, même si c'est non vero e ben trovato, et souvent on veut être beaucoup plus vrai que trouver la chose intéressante. Ça c'est une chose différente. Donc voilà, je me suis orienté dans ce sens-là, mais j'ai fait aussi des expériences. Je pense par exemple qu'il n'y a pas de discussion à l'intérieur de la psychologie sociale des théories psychologie sociale elles-mêmes. Moi, je n'ai jamais vu une discussion de shérif, je n'ai pas de la théorie des shérifs, de H. Il y a des résumés dans les manuels, mais nous ne discutons pas alors. Effectivement, le problème du sens commun met en discussion l'ensemble de ces... Et puis pour moi, ça a été une découverte assez intéressante. Enfin, je trouve que ça, à la fois, ça clarifie, c'est moins pesant. Et après tout, qu'est-ce qu'il dit Durkheim dans son manuel, eh bien, pour faire de la science, il faut éliminer le sens commun. Mais le fait est que, par exemple, on ne peut pas faire une science du politique. Hein. C'est très difficile de dire, même de l'économie. Enfin, je ne peux pas. Tout ça, c'est long. C'est long comme la vie.
Donc on va essayer de rentrer par petites touches dans ce qui est si long. Et alors, vous définissez souvent votre travail comme une sorte d'anthropologie de notre culture, avec comme objectif, finalement, cette idée que, vous dites, votre objet, c'est le sens commun, mais c'est aussi la conception de la rationalité moderne. Et pour comprendre la conception de la rationalité moderne, finalement, vous allez étudier quoi ? Ce que vous avez appelé les représentations sociales, donc qui est le concept central de votre œuvre. Alors, j'imagine qu'il faudrait un peu expliquer ce que sont ces représentations sociales. Pourquoi les représentations sociales, déjà, ne sont pas des représentations individuelles, par exemple ?
Ça, si vous pouvez le dire, moi, je ne peux pas le dire. C'est con. Dans tout truc, on a une sorte de partie intuitive.
Je pense qu'on a affaire. Effectivement, ça a été cité. Il y a une part de psychologie collective clairement explicitée chez Durkheim, mais chez les premiers Durkheimiens, ceux qui l'ont entouré, qui s'est structuré notamment à travers le concept de la représentation collective. Moscovici, on raconte en tout cas qu'il a repris cela dans les années 50-60 à travers sa thèse sur la psychanalyse. À vrai dire, il a rencontré, il le dit extrêmement clairement lui-même, y compris dans le livre Durkheim, il a lu Durkheim, il l'a mieux lu presque à travers Piaget que directement. Il a pris en considération la nature communicationnelle, en tout cas, de notre société, la montée de la communication de masse et l'importance du sens commun, qui n'est pas aussi capital que ça chez Durkheim. Et il a proposé à partir de là une théorie qui est devenue une approche, voire même un paradigme par la suite, des représentations sociales. Alors, de quoi il s'agit, de manière extrêmement simple et voire même assez schématique, il s'agit de différentes théories que nous construisons, nous tous, dans la vie de tous les jours, pour expliquer ce qui nous arrive, pour interpréter des événements, pour converser avec les autres. C'est-à-dire, ce sont des structures, quelque part aussi socio-cognitives, communes, que nous partageons, hein, qui ont un bagage culturel absolument fondamental, très fort, et qui nous permettent de communiquer, qui nous permettent de parler, qui nous permettent de bâtir parfois des théories du sens commun. À propos de quoi? Alors, à propos de l'économie. Pourquoi la crise économique? Pourquoi la Grèce est endettée à ce point? Pourquoi il y a une telle crise écologique, par exemple? Que faut-il faire? Que faut-il manger? Comment faut-il faire face, par exemple, aux défis écologiques ou à une crise alimentaire? Voilà. Donc, ce sont des théories que nous construisons dans la vie de tous les jours qui vont orienter notre action, qui vont nous permettre, nous donner plus ou moins l'illusion d'une maîtrise de soi, en fait, dans le monde, et qui surtout nous font partager un certain nombre d'idées, de comportements, de pratiques avec nos proches, ceux qui appartiennent dans les mêmes groupes que nous, et ceux avec qui on a l'habitude de fonctionner, de raisonner, de converser, d'interagir. Pourquoi social? Donc ça, c'était une partie de réponse. Pourquoi social et pas collectif, déjà? Pourquoi social ou collectif et pas individuel? Parce qu'à la rigueur, sans du tout nier la part individuelle, il ne s'agit pas du tout de la nier en tant que telle. Elle est là, elle est importante. On n'est pas déterminé à ce point-là par le social. Chacun investit dans la part de cette théorie du sens commun dont je parlais tout à l'heure, sa propre part d'expérience, de vécu, sa propre part de subjectivité. Toutefois, pour la psychologie sociale, ceci devient intéressant à étudier lorsque ça se passe en société, lorsque ça se passe en groupe, et lorsque ce type-là d'échange, de conversation, de communication est des résultats, des conséquences directes sur notre vie. Voilà. Donc il ne s'agit pas de nier la part individuelle des représentations, il s'agit plutôt de voir qu'est-ce qui fait carburer finalement les individus lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils forment collectif, lorsqu'ils sont en groupe, lorsqu'ils sont en société.
Sauf que ce qui est très important dans la théorie de Serge Moscovici, c'est que ces représentations sociales, contrairement à ce que voudrait une longue tradition philosophique, et on trouve une forme d'anticartésianisme de principe, un anticartésianisme méthodologique chez vous, ce ne sont pas des illusions, précisément. C'est pas, vous avez parlé des représentations qui vous permettent de vivre avec autrui, etc., éventuellement des sentiments. L'enjeu, c'est de reconnaître quelque part leur objectivité. À un moment, vous dites que ça forme le monde, ça fait partie du monde. Et donc, tout l'enjeu de cette théorie, c'est d'en montrer l'objectivité et comment elles importent pour n'importe quelle science qui veut rendre compte du social. Donc, l'idée est de pouvoir rendre compte de la matérialité du social à travers ces représentations.
Vous avez tout à fait raison. Ces représentations-là sociales font réalité pour nous.
Elles ne sont pas une illusion, ce n'est pas une erreur, une tromperie.
Elles ne sont pas une illusion, elles ne sont pas une erreur. Elles ont été vues ou elles continuent à être vues parfois comme des biais, comme des erreurs, justement, comme des jugements parfois même irrationnels, parce que collectifs. Toutefois, ils font la réalité pour nous. Ils sont la réalité, en fait, pour nous. La manière dont on va faire face à une maladie légère, mais aussi une maladie grave, dépend de la manière dont on la pense, en fait, dont on l'a observé chez les autres, dont on l'a vu bien sûr aussi. Mais enfin, là, la réalité est devant nous en tant que telle. La réalité est dans notre assiette lorsqu'on la consomme. C'est l'alimentation en tant que telle, ce qu'on va choisir, elle est là déjà. Elle fait réalité et elle fait corps aussi. C'est-à-dire ce n'est pas uniquement une sorte de uniquement d'idéation collective. On a affaire à des choses qui touchent le corps, nos pratiques, nos émotions, nos sentiments, et qui traversent également, mais nous aurons l'occasion d'en parler, notre langage.
Tout à fait.
Elles font langage.
Et un autre point fondamental qui croise le précédent, c'est qu'en fait, il y a une sorte de... L'œuvre de Serge Moscovici brise le lien qu'on a toujours voulu voir entre individualité et rationalité. finalement, ce que vous montrez, c'est que la rationalité est bien plutôt de l'ordre du collectif, ou qu'en tout cas, elle n'est pas nécessairement de l'ordre de l'individualité. Et il y a une phrase que vous répétez souvent, qui est que tout ce qui est rationnel est social, et tout ce qui est social est rationnel. Donc, ce qui peut surprendre, mais est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cette idée que tout, en fait, c'est le social qui est rationnel, alors même qu'une vieille tradition philosophique aurait tendance à considérer que précisément c'était l'individuel face à la société. Or, précisément, non.
D'abord, Descartes le dit lui-même. Ensuite, la théorie cartésienne présuppose la pensée lorsqu'on doute. Le doute est la chose fondamentale dans l'épistémologie cartésienne. Non, or, ce n'est pas vrai pour tout ce qui est une société, échange, construit, etc. Ce n'est pas en doutant que les gens se réunissent ensemble. Et je pensais, quand vous parlez, c'est que il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'ai lu à fond Mauss. Je ne le connaissais pas bien. Et Mauss évidemment critique l'idée cartésienne de la formation, je dirais, de la naissance sociale. Pour Kant, pour Durkheim, tout est le social est une sorte de... Tandis que pour Mauss, ce qui est important, c'est l'interaction qui existe entre... Ensuite, bon, je m'arrête, mais je dirais quelques petites choses. D'abord, dans la théorie de Durkheim, l'image ne peut pas y pénétrer. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'imaginaire, le mythique même, ne pénètre pas. Chez d'autres auteurs français, on le trouve, l'image et le... Deuxièmement, il y a chez Durkheim aussi cette idée que la sociologie doit être construite de façon à ce que tout ce qui est sens commun, intuition, etc., soit éliminé. D'ailleurs, Bourdieu écrivait la même chose. Et donc, et moi, je ne crois pas que ça, c'est vraiment la science. Dans la science, il y a quand même un problème qui est fondamental, qui est celui de l'action et de la créativité. Si non è vero, è ben trovato. Eh bien, et donc, ça, c'est une chose qui n'apparaît pas dans notre épistémologie, que l'action, la création, etc., sont des choses importantes dans le social, actif.
De telle sorte que vous n'opposez plus, en fait, sens commun et science ou rationalité. Vous en faites plus les...
Les opposer. Je ne peux pas les opposer toujours parce que j'aurais du mal à savoir quelle est la distinction entre la politique en tant que pratique et de théorie qui existe, qui circule, de la politique comme science dite politique. C'est un peu aussi le cas de l'économie. Or, nous avions l'idée, c'était l'espoir fou pour l'instant, enfin, mais qu'on pourra tout ça séparer et qu'on aura la science qui, d'une part, va nous bercer tous et, de l'autre part, la non-science. Et dans ce sens-là, le sens commun est important.
Et une des choses que vous avez montrées, c'est que, d'une part, la science est obligée de se nourrir du sens commun, qu'elle ne pourrait pas devenir science sans le sens commun et que, à l'inverse ou réciproquement, finalement, le sens commun ne cesse de se nourrir de la science. Oui. Et donc, il y a une véritable dialectique, finalement, dans la constitution de ce qu'on peut appeler les savoirs qu'on pourrait considérer comme vulgaires et les savoirs considérés comme savants, et qu'en fait, tout ça fonctionne indissociablement ensemble.
Oui. Je me permets d'ajouter deux choses là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, il n'y a jamais une opposition, il y a une distinction. Et la distinction, c'était pour rendre les choses opératoires entre sens commun d'un côté et science de l'autre. Souvent, on entend dire, mais oui, mais les scientifiques eux-mêmes utilisent leur sens commun. Bien sûr que oui, il ne s'agit pas de le nier, il s'agit simplement d'avoir deux entités de connaissances pour pouvoir commencer à les étudier en tant que telles, mais sans les opposer, simplement en faisant une distinction. Il y a opposition lorsqu'il y a un effort de domination de l'une vers l'autre, et notamment de la science vers le sens commun. Et je pense que l'originalité, me semble-t-il en tout cas, de cette approche en psychologie sociale et au-delà, c'était d'essayer de démontrer que cette connaissance sociale du sens commun a une logique qui lui est propre, une rationalité qui lui est propre, qui n'est pas la même, qui n'est pas identique de celle de la rationalité individuelle, mais qui fait sens et qui peut faire sens, qui peut faire en tout cas avancer, si j'ose dire, faire vivre en tout cas les groupes sociaux. C'est une des raisons pour lesquelles aussi, activement, c'est une raison pour laquelle aussi, une des expressions qui est utilisée et reprise en tout cas dans le livre de Moscovici, c'est celle de la société pensante, une société agissante, pas une société dominée par la science, qu'elle la regarde, elle la découvre à chaque fois, et qu'elle essaye d'incorporer, en fait, ce que la science lui dit de faire, lui dit de penser.
Et ce qui permet de penser à nouveau frais un des problèmes de l'ethnologie, puisque vous rejoignez Lévi Brühl quand il traite de la fameuse mentalité prélogique, en montrant bien que c'est pas une mentalité, enfin, que par mentalité prélogique, il ne faut pas entendre une rationalité qui serait inférieure, mais une rationalité différente. Et en fait, ce que vous montrez très bien et qui est très important, c'est qu'il y a de multiples formes de rationalité dans le monde social et que celles-ci se structurent en fonction des attentes et des pratiques de chacune des communautés.
Et en fonction des rapports sociaux, voilà, de chaque époque. Voilà, un point que je n'ai pas mentionné, parce que ça risque de nous amener assez loin aussi, c'est l'ouvrage justement sur les minorités actives, qui a été publié d'abord en anglais, avant que ce soit traduit en français, qu'on peut interpréter en partie, c'est-à-dire quel est le pouvoir des minorités, finalement, sur les majorités. À l'époque, c'était une question qui était du non-sens pour la psychologie sociale, notamment américaine. Il est impossible qu'une minorité puisse exercer de l'influence sur une majorité. Et ça a été brillamment démontré, en tout cas, que justement, en ayant un certain style de comportement et en défendant un certain nombre d'idées, en tout cas une minorité, dans certaines conditions, peut avoir une influence sur la majorité. Et ça, c'est aussi un complément de réponse parce que les représentations sociales se déroulent dans des cadres historiques et sociaux précis. Voilà. Ce qui permettra sans doute d'interroger leur évolution, leur dynamique, leur disparition éventuellement aussi.
Et donc, ce que vous mentionnez, c'est en fait le pouvoir, quelque part, des représentations, ce qu'on peut appeler leur pouvoir symbolique. Est-ce que vous pouvez expliciter comment, justement, ces représentations, par exemple, telles que les minorités peuvent s'en emparer, vont réussir à changer des choses? Comment elles vont réussir à introduire une dynamique?
En micro.
Enfin, on ne peut pas parler de tout. Mais au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle, ce qui était social, c'était l'autorité. C'est-à-dire quelque chose qui a un aspect symbolique, pas le pouvoir. Et effectivement, le pouvoir joue un grand rôle dans nos théories sociales, du moins en psychologie sociale, dans l'influence, etc. Mais ce qui est important, c'est l'autorité et la perte de l'autorité. Et Hannah Arendt a écrit quelque part, je ne me souviens pas, il y a quelques années, il y a 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans, un papier assez très intéressant sur ce problème-là. D'ailleurs, aussi le philosophe russe qui a appris l'hégélianisme, qui a enseigné Kojève. Kojève a écrit sur l'autorité un livre.
On pourrait tenter un rapprochement aussi pour donner un complément de réponse. On peut prendre l'exemple de l'écologie politique, en fait, hein, qui a été défendue dans les années 70 par un groupe qui était un groupe aussi minoritaire, d'intellectuels et pas seulement, et qui était vu sous un angle voilà, particulier. Faire du vélo à Paris dans les années 70, c'était folklorique. Aujourd'hui, c'est... Ben, justement, voilà comment l'influence, finalement, a eu lieu. On ne s'est pas rendu compte, mais le consensus qui existe aujourd'hui, qui est observé aujourd'hui autour de l'idée de la protection de la nature, ben, si on le regarde historiquement, avec les différents ancrages aussi géographiques en Europe, en Allemagne, en France, etc., c'est une œuvre de minorité, ce n'est pas une œuvre de majorité. Ça, c'est un problème maintenant pour les écologistes, parce qu'à partir du moment où c'est devenu trop consensuel, il faut trouver autre chose, mais ça, c'est une autre question.
Oui, et donc ce que vous montrez, c'est que la psychologie des représentations sociales permet de penser la dynamique, la dynamique de ces représentations, et cela tient à la façon même dont ces représentations fonctionnent, et notamment, vous l'avez évoqué, à travers le langage. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu plus sur la façon dont ces représentations sont incarnées dans le langage, et quelle est la conception du langage que Serge Moscovici peut défendre à ce niveau-là?
Oui, on peut pas tout savoir. Je peux tenter de répondre, sachant que j'ai voilà, en face de moi un spécialiste aussi de la philosophie analytique et du langage. Alors, il est vrai que dès le début, il y a eu une distinction. Enfin, il a été proposé en tout cas comme articulation plutôt l'aspect verbal et l'aspect iconique aussi, des figuratifs. Des représentations sociales. Et il est encore vrai aujourd'hui, me semble-t-il, qu'il y a encore du chemin à faire sur l'aspect figuratif, du point de vue de son étude. On a davantage étudié l'aspect verbal, l'aspect discursif. J'arrive peut-être petit à petit à votre question. À la rigueur, on a peut-être trop analysé le discours en tant que tel, considérant que finalement, tout est incarné à travers le discours. Sinon, le langage des représentations sociales, peut-être là, c'est une vision un peu plus lacanienne, beaucoup plus large que le discours. Voilà. Donc, il peut être incarné à travers les micro-gestes rituels de nos pratiques et de nos interactions. Ça peut être incarné à travers, justement, l'iconographie en tant que telle. Et ça peut être naturellement incarné à travers la langue et le vocabulaire, sous des usages métaphoriques, mais aussi historiques. Alors, oui, je risque aussi de devenir long du coup, dans ma réponse, mais on pourrait trouver différents exemples autour de cela, dans des recherches classiques, que cela soit la psychanalyse, son image, son public, que cela soit... Folie et représentation sociale. On a la chance d'avoir dans le public aussi Denis Jodelet. Mais le langage des représentations sociales dépasse la simple acception, si j'ose dire, discursive en tant que telle. Voilà. Mais il y a, je pense, du progrès à faire de notre côté et pour l'avenir sur l'analyse, la prise en compte de l'image et de l'aspect figuratif.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce type d'analyse va devoir échapper à une forme de logique qui serait la pure logique telle qu'on peut la retrouver dans le langage scientifique. C'est que finalement, la façon dont fonctionne le langage ou les représentations sociales va être selon une autre forme de logique, qui va être sa logique propre.
Je peux vous donner un exemple très simple et très concret. Il y a un an, il y a eu la découverte, une des plus grandes découvertes dans la physique, en tout cas moderne, qui était le boson de Higgs. Bon. Je me rappelle, le lendemain, la une de Libération, qui, pour évoquer ces découvertes-là, disait « la masse est dite ». Sur la une, bien sûr, leurs unes sont souvent assez intelligentes du point de vue du travail, en tout cas sur le langage par rapport à l'avènement. Mais voici, ben voilà, on va utiliser finalement une expression compréhensible par tout le monde, un jeu de mots, une connotation religieuse, sachant que cette théorie physique a été par les physiciens aussi connotée de manière religieuse, et en une simple phrase, un condensé, tout est dit. Voilà. Dans cette simple phrase, sur la une de Libération, il y avait à la rigueur une sorte de terrain, en tout cas de représentation sociale au pluriel, absolument polymorphe, absolument sublime.
Oui, et donc vous montrez bien comment finalement cette théorie permet d'interpréter un certain nombre de phénomènes contemporains. Et une des questions qu'on peut se poser, une question peut-être un peu plus compliquée, c'est finalement quelle est l'utilité par rapport à la question qui était posée. Est-ce que finalement il y a un gain en liberté, un gain en réflexivité qui peut être gagné par la théorie des représentations sociales, en ce sens qu'elle nous rend plus conscients finalement des représentations sociales qui nous meuvent.
Je ne sais pas si ça serait le terme en tout cas que moi j'utiliserais en termes de gain. J'utiliserais davantage le terme de la compréhension. Voilà. C'est plus ou moins, parce que tout ne se passe pas forcément de manière absolument consciente non plus, mais essayer, en tout cas, nous, notre tâche, lorsqu'on les étudie, c'est de mettre en évidence des logiques, en tout cas collectives, de penser, de parler, d'agir. Pour les uns et les autres, lorsque on est porteur et utilisateur de vecteurs de représentation sociale, je pense que c'est essayer déjà de comprendre, parfois d'imiter les autres, d'être dans ce qui est fait de manière générale, donc quelque chose de normatif forcément, mais pas uniquement. C'est de ne pas se sentir exclu de quelque chose qui nous concerne, en fait, ou qui est supposé nous concerner. Ce qui peut poser la question de l'expérience directe, en fait, des choses qui sont représentées. Une grande partie de nos représentations sociales est issue d'une expérience qui n'est pas directe, qui est une expérience indirecte, voilà, des choses, des idées.
Et d'ailleurs, à ce propos, ça amène une question que je me suis posée à la lecture du livre. C'est que vous dites effectivement qu'un certain nombre de nos représentations sont de sources indirectes, en ce sens qu'elles sont liées pour beaucoup à la confiance que l'on va faire à autrui. Et vous donnez une grande importance à la confiance donnée à autrui, à la société dans laquelle on vit. Et la question qui se pose, c'est vous semblez privilégier la confiance par rapport aux institutions. C'est-à-dire que finalement, ce qui assure la cohésion, outre les représentations sociales partagées, c'est le fait qu'elles vont être transmises en partie grâce à la confiance. Et il semble que les institutions ont un rôle beaucoup plus faible par rapport à la confiance.
Ça, je n'ai pas pensé, mais d'une certaine manière... D'une certaine manière, la confiance et l'institution, la confiance fait l'institution d'une certaine manière. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la confiance, que ce soit des croyances, que ce soit des actes, des rituels, parce que ça aussi c'est dans les représentations. Oui, les schémas, si on peut dire, corporels. Mais
c'est un monde. Ce que je peux ajouter, du coup, est-ce que c'est aussi un souvenir personnel. Lorsque j'étais étudiant en DEA, Serge Moscovici tenait un séminaire à l'EHESS qui était intitulé Idéologie et représentation sociale. Et. Ne touchait pas à chaque fois l'idéologie, mais il y a des écrits aussi de Moscovici, et dans ce livre, il y a des références en tout cas à l'idéologie. Il me semble que votre question sur les institutions englobe un peu la question aussi idéologique, c'est-à-dire que quand il y a la confiance qui est mise en avant, ce qui est mis en avant, c'est le lien. en fait, sociale. Tandis que dans les institutions, souvent, pas exclusivement, mais souvent, on est aussi face à des reproductions d'idéologies ou d'idéologèmes qui peuvent être pas forcément ceux du siècle dernier, c'est de nos jours. La bureaucratisation, par exemple, qui est revenue en masse, en tout cas dans nos institutions, ou un certain nombre d'autres exemples peuvent nous servir à cela. Mais les représentations sociales comme outil, en tout cas, peut être extrêmement utile pour une analyse institutionnelle, pour l'analyse des collectifs au sein des institutions, et c'est déjà énormément utilisé, notamment du côté médical, pas uniquement, mais du côté du champ médical.
Et vous mentionniez par ailleurs le rôle que les institutions avaient pu jouer dans le parcours de Serge Poscovici lui-même.
Oui, alors là, oui, bien sûr. Je pense que sans des institutions type le HESS, type la New York School, par exemple, sans des institutions qu'il a même lui-même créées, par exemple le laboratoire européen de psychologie sociale, où les gens continuent toujours à chercher les murs, tandis que c'était un des premiers réseaux qui existait. Ce sont des structures qu'on crée ou qui nous créent, enfin, voilà, qui nous influencent et qui permettent de pouvoir faire quoi ? Ben, travailler en collectif, déjà. Parce que ça, c'est quelque chose, je sais qu'il est très mentionné, énormément mentionné dans le livre aussi. L'aventure de cette approche, c'est aussi l'aventure d'un collectif aussi de chercheurs. J'ai cité tout à l'heure, elle est présente ici, Denis Jodelet, entre autres, de collectif de chercheurs absolument brillants qui ont pu trouver les lieux institutionnels leur permettant d'agir, en fait, leur permettant de faire. Ce qui, parfois, dans nos universités, aujourd'hui en tout cas, est extrêmement compliqué, faut-il dire. Donc les institutions, oui, les institutions qui permettent, pas des institutions qui sont comme des étiquettes belles à regarder, mais des institutions qui véritablement permettent de faire science, enfin, autrement même.
Et donc j'imagine que ces institutions ont permis aux idées de Serge Moscovici d'essaimer, et qu'il y a des chercheurs, parmi vous-même notamment, qui prolongent l'œuvre et les travaux de Serge Moscovici. Donc, quelle est finalement l'actualité de cette recherche ? Quelle est sa vitalité actuelle ? Dans quelle direction se prolongent les travaux, vos travaux ?
Une des raisons d'être de ce livre-là aussi, c'est un paradoxe, hein, c'est-à-dire que cette théorie, cette approche, elle a une durée de vie maintenant d'un demi-siècle, hein, ce qui étonne d'abord Moscovici lui-même, mais aussi pas mal de gens, c'est-à-dire comment une théorie finalement peut continuer aussi longtemps à être non pas simplement utilisée, mais aussi développée, la faire évoluer, la faire sienne, enfin, la faire appartenir en tout cas à des collectifs de recherche, de chercheurs qui la pratiquent. Et l'actualité, elle est plutôt, ces dernières années, en tout cas, si on reste uniquement sur les années 2000, pour ne pas faire un long historique, assez optimiste à mes yeux. Un développement, une évolution en Europe il y a déjà un petit moment, mais notamment du côté de l'Amérique latine, où là, dans des pays comme tout particulièrement le Brésil, il y a un tel rapport, si j'ose dire, à l'approche, qui est un rapport d'utilité. Donc, c'est pas uniquement instrumental, mais voici des gens qui découvrent une théorie, une approche qui leur est utile. Plus préoccupés, sans doute, que nous sommes par des questions politiques et pratiques de la vie de tous les jours. Donc, c'est une approche qui évolue. C'est une approche qui évolue aussi parce qu'il n'y a pas eu de dogme, ni de dogmatisme particulier. À un point tel, et c'est un point qui traverse aussi le livre, parce qu'il n'y a pas eu de définition, justement. Une définition, il y a eu plusieurs définitions, chose qui rend la vie particulièrement difficile à nos étudiants, mais voilà, il y en a plusieurs, il n'y a pas une seule, il ne faut pas réduire forcément à une seule définition. Il n'y a pas eu de dogmatisme, donc il y a eu une évolution de différents groupes, de différentes pratiques, de différentes, pas chapelles, mais groupes et pratiques. Et ça évolue parce que ça embrasse beaucoup aussi des questions sociales et politiques de notre temps.
Et est-ce que les concepts ont essaimé dans d'autres disciplines? Vous-même, vous revendiquez, je l'ai dit, votre travail comme faisant partie intégrante des sciences sociales, et vous appelez de vos voeux finalement un rapprochement avec la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, parfois même l'économie. Est-ce que finalement des chercheurs d'autres disciplines se sont emparés de vos concepts, en ont fait quelque chose, des choses que vous voyez plutôt d'un bon œil?
Je ne sais pas, j'ai pratiqué dans une institution de sciences sociales. Il y avait des contacts entre les différentes disciplines, plus ou moins. J'ai l'impression que les contacts entre les sciences sociales, c'est quelque chose d'assez difficile. Mais je dis ça comme ça. Et c'est vrai qu'en particulier de la psychologie et de la sociologie, parce qu'il aurait fallu qu'il existe un rapport entre ces sciences pour qu'on puisse développer. Il aurait fallu qu'il existe un rapport assez plus étroit entre la psychologie et la sociologie, etc., pour que la psychologie sociale elle-même se développe. Mais dans la mesure où chacun se croit être la science et l'autre la non-science, alors oui, c'est des batailles d'épistémologie difficiles.
Moi, je souhaiterais simplement ajouter le fait que, oui, on n'est pas dans une grande illusion d'interdisciplinarité à tout va. Pour la pratiquer, j'ai la conviction que cette approche-là permet justement d'avoir un langage compréhensible par d'autres. Et c'est une approche de psychologie sociale, issue de la psychologie sociale, qui est peut-être une des rares à permettre cela, à nous permettre en tant que chercheurs d'apprendre et de pratiquer un langage qui est compréhensible par d'autres tribus que la nôtre, c'est-à-dire en sociologie, anthropologie, géographie, sciences de l'éducation, etc., etc. Et qui a un potentiel de compréhension aussi et de visibilité pour des gens qui n'ont pas de rapport avec les sciences sociales. L'approche des représentations sociales a aussi été beaucoup appliquée dans le monde des entreprises, des organisations, dans les politiques publiques de plus en plus. Et lorsqu'on est en face de gens, de personnes qui n'ont pas un background de sciences sociales et qu'on leur parle le nôtre, notre langage, ils comprennent. Ils comprennent l'essentiel. Voilà. Et je pense que ça, c'est c'est sans doute dans l'ADN un peu de cette approche, vu l'histoire des idées qu'elle a traversées, mais c'est une grande richesse.
J'espère que nous aurons réussi à atteindre cet objectif. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot, Serge Moscovici, avant de laisser la parole au public?
Non. Je vais dire simplement que je n'ai pas essayé de uniformiser dès le départ. J'ai voulu dire simplement que je n'ai pas voulu uniformiser dès le départ le champ, si vous voulez. Voilà, c'est tout.
Merci. Donc, la parole vous est offerte si vous souhaitez poser un certain nombre de questions.
Bonsoir. J'ai une question toute simple. C'est la question qui est posée dans le titre du débat. C'est « Peut-on encore rêver dans un monde prisonnier du réel ?» Parce que je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose, mais j'aimerais que vous répondiez à cette question.
Le titre qui avait été donné au débat.
Comment dire, le titre est un prétexte, si vous voulez. Mais on peut entrer dans le débat, si vous voulez. Prétexte pour vous faire venir, mais ça a marché.
D'autres questions ?
J'avais une question pour Serge Moscovici. Vous disiez tout à l'heure, quand vous avez commencé à parler de votre travail et puis de l'élaboration de votre théorie, que vous aviez l'intuition qu'on allait passer d'une société de savoirs cultes à des savoirs incultes. Alors je voulais savoir d'où vous venait cette intuition. Qu'est-ce qui, après la guerre, vous faisait dire que, justement, tout ça allait se révolutionner, la communication allait produire des effets aussi massifs. Quelle était votre intuition là-dessus ?
Il me semblait que tout ce qui s'est produit pendant la guerre a détruit à la fois la culture quotidienne des pays où j'ai vécu et que l'évolution politique va obliger les gens à changer de registre, de langage, de façon de voir leur société, puisque c'est ce qui s'est passé dans l'Europe de l'Est après. C'était assez concret. Enfin, d'abord, je pensais que ça, c'est un truc important de la modernité. La modernité, c'est ça. Et deuxièmement, que c'est un phénomène, c'est quelque chose qui, dans ce monde vidé de la guerre, devait se passer. Voilà, c'est... Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà, c'est ça que vous me demandez de vous répondre ou autre chose. Vous avez une autre sous-question.
D'autres questions dans la salle ?
Oui, en fait, j'étais un peu surprise de la manière dont vous avez présenté la psychanalyse, son image et son public. Alors, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais un peu comme un échec. C'est-à-dire que vous disiez que peut-être c'était à ce moment-là que vous aviez senti les limites d'une approche sociologique ou d'études des opinions ou des attitudes. Et essayer de construire autre chose. Est-ce que j'ai mal entendu ou est-ce que j'ai bien entendu ce que vous vouliez dire?
C'était pas ce que je voulais dire.
Oui.
C'est parce que ceci m'a laissé un sort de champ libre. Enfin, on était très peu de chercheurs, bien sûr. Mais ceci m'a permis de faire les choses plus librement. De ne pas... Il n'y avait pas encore la maîtrise d'une tradition, est-ce que la psychologie sociale... C'est assez paradoxalement, les Français ont joué un grand rôle dans la psychologie sociale, avec la psychologie de masse, l'imitation... comment il s'appelait le type qui a créé les tests Binet. Binet, il est un auteur cité dans les livres, dans les articles et dans les revues de psychologie sociale en Amérique dans les années 1900. Donc, ça, c'était plutôt une sorte de liberté aussi de la façon de l'écrire et de finalement d'être tout le temps dans le réel. Parce que bon, la psychanalyse était un problème assez important à ce moment-là, puisque avec les transformations politiques aussi, n'oubliez pas. Mais la thèse que j'ai faite sur les reconversions industrielles, c'était une question pratique qui m'a permis d'avoir un centre au centre, dans un autre réseau, de créer une revue, et c'était un problème concret. Je suis assez porté vers ce genre de choses, le problème concret, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas que je suis applicateur ou que je suis pratique, mais j'aime bien que ça vienne de... que je le sente, le phénomène, que je le vois.
Excusez-moi, est-ce que vous parlez bien dans le micro parce que les débats sont enregistrés en fait.
Oui, je crois que vous avez toujours maintenu l'idée qu'il n'y avait pas d'antinomie entre un secteur d'application fort pour une discipline comme la psychologie, par exemple, et le développement d'une psychologie fondamentale ou générale, puisqu'en général, précisément, on établit ce clivage. Par exemple, en disant que tous les maux de la psychologie viendraient du fait que des gens très pressés ont voulu appliquer très vite alors qu'on n'était pas prêt, que la discipline n'avait pas suffisamment d'assises théoriques pour. Et vous souteniez le contraire, en fait, qu'il n'y avait pas cette antinomie.
Non, et je pense que les gens, par exemple, qui veulent fixer des groupes sur des méthodes ou sur des théories, c'est une illusion. Ça, c'est quelque chose que l'histoire fait, mais pas l'individu.
Merci. Bonsoir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'expérimentation en psychologie sociale? Je pense par exemple à l'expérience de 1000 grammes, cette fameuse expérience que tout le monde connaît, donc je ne vais pas faire l'insulte de la rappeler. On n'avait pas demandé aux gens ce qui avait fait qu'ils avaient appuyé plus ou moins longtemps sur le voltage destiné à... Enfin, le voltage théorique, puisque c'était effectivement des cobayes. Est-ce qu'il ne faudrait pas mélanger deux formes de recherche, c'est-à-dire la recherche telle qu'elle se fait en psychologie clinique et la recherche telle qu'elle se fait en psychologie cognitive, c'est-à-dire demander aux gens qui servent qui sont sujets d'expérience, pourquoi ils ont fait telle ou telle chose, et ne pas rester figé sur des statistiques peut-être quelquefois trop limitées.
Je vais vous faire un aveu. Je ne pense pas que tout est prévisible dans la vie. C'est-à-dire, tout n'est pas prévisible dans la recherche. Tout n'est pas prévisible dans la recherche. Si la recherche n'est pas une recherche, hein, c'est-à-dire je sais exactement ce que va donner une méthode, etc., à ce moment-là, ça va. C'est pour ça qu'il y a des gens qui croient qu'une méthode, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, je n'y crois pas. Et je crois que même dans la formation des chercheurs, Nous insistons beaucoup sur leur profession plus que sur ça et sur le fait qu'il faut toujours créer quelque chose. Ça, c'est la science. C'est dans ce sens-là que la science est différente du sens commun, pas pour une autre raison. Et donc... C'est pour ça que je n'ai pas voulu imposer telle définition ou telle méthode. On ne sait pas ce qui se passe, ce qu'il découvre. Donc peut-être, je ne suis pas laisser faire, etc., mais je pense que ce que nous devons créer, c'est des espaces de créativité. C'est ça que nous pouvons transmettre. Maintenant, en ce qui concerne... vous savez, il n'y a pas vraiment une interprétation de l'expérience de 1000 grammes. Et lui-même n'était pas un bon théoricien. Son livre a été traduit en France, en français, par quelqu'un avec qui je travaillais. Et il n'y a pas de théorie. Il a trouvé ça.
D'autres questions ? On va peut-être s'arrêter là. En vous souhaitant, en remerciant Bruno Ambroise, Nikos Kalampalikis et Serge Moscovici pour leur présence et pour ce débat, en vous donnant rendez-vous pour de prochains débats. Là, notamment, je voulais vous indiquer que samedi prochain, on avait un débat qui est pas finalement très éloigné sur les imaginaires comestibles. On en a parlé un tout petit peu à un moment du débat avec la revue Poly, politique de l'image à 17h30. Sur les études culturelles, enfin les cultural and gender studies et notamment la représentation de l'alimentation. Donc à 17h30 samedi, et nous ferons aussi un prochain débat avec les éditions de l'OHESS à l'automne prochain, et je vous donne rendez-vous. Je vous rappelle aussi que les différents débats sont diffusés en direct sur Internet, c'est pour ça que j'étais un peu exigeant avec le micro, et seront disponibles en ligne normalement dans la semaine sur le site de la BPI. Voilà, bonne soirée à tous. Merci.